Être gros ou grosse dans la société, c'est être sujet à de nombreuses discriminations. Daphné est modèle photo et effeuilleuse. Pendant un an, elle a travaillé sur sa conférence gesticulée « Sous les pétales, entre invisibilisation et stigmatisation des corps gros ». Une conférence gesticulée, c'est une forme de témoignage éclairé par la théorie sur un sujet de société. Début décembre, un nouveau pétale a poussé lorsqu'elle nous a présenté sa conférence à l'Hybride à Lille. Daphné ne parle pas d'obésité ni de complexe, mais plutôt de la place de son corps dans la société. Son corps, il a une particularité, c'est celui d'être gros.
Gros n'est pas un gros mot. On va entrer direct dans le vif du sujet. Moi j'en fais une utilisation politique de ce mot et je l'utilise pour me le réapproprier. Il a beaucoup été utilisé contre moi et contre pas mal de monde comme une insulte. Mais au final, quand il vient désigner une voiture, un salaire, une maison ou une bite, il n'y a pas de problème. Pourquoi ça poserait un problème pour un corps ?
De quelle manière la société n'est pas adaptée aux personnes grosses ou à toutes les morphologies de manière générale ?
Pour les corps gros, c'est sur quasiment tous les plans. Donc moi, dans ma conf, j'en évoque plusieurs. Je parle par exemple de l'accès au fait de s'habiller. Les fringues ne sont pas accessibles à tout le monde, enfin à toutes les tailles. Il y a des histoires de vêtements beaucoup plus chers, beaucoup moins accessibles, accessibles uniquement sur Internet, ou si on peut les acheter en physique, on les achète hors du centre-ville. Il y a cet accès à tout le monde extérieur, tout le mobilier urbain qui n'est pas adapté. Les chaises, j'ai une petite partie dans ma conf sur les chaises que j'ai peur de casser. Tout l'accès à la sécurité avec les ceintures de sécurité qui sont testées sur des hommes minces, enfin sur des hommes de moins de 70 kilos. Donc ça pose des questions sur comment l'ensemble du monde et l'ensemble de l'accès au monde d'un point de vue matériel, en fait, est impacté par la taille du corps qu'on a.
Avec tes mots, toi, comment tu définirais la grossophobie ?
La grossophobie, pour moi, c'est un ensemble de stigmatisations, de préjugés et de discriminations que tout le monde a envers les personnes grosses.
En 10 ans, la grossophobie est très répandue, car beaucoup la trouvent compréhensible et tolérable. Ok, bah on ne vous dérange pas, désolé. Énormément de personnes ont des préjugés sur l'intelligence et la compétence des personnes grosses. Mon image est une motivation, parce que tu ne te transformes pas en moi.
Mon corps, j'examine tes bords. Je vois ton dehors que tes défauts.
Est-ce qu'on est tous et toutes grossophobes parce que on n'a pas envie de grossir, on se trouve grosse ?
Oui, clairement. Et ça, je pense que c'est un truc qui est important pour pouvoir avancer sur ce point. Au même titre qu'une personne dirait à propos des personnes racisées « Non, moi je vois pas les couleurs, donc ça compte pas pour moi. » À un moment, il faut aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe, si les différences, elles sont perceptibles. Après, toutes les personnes qui évoluent dans la société patriarco-capitaliste dans laquelle on est, toutes ces personnes sont grossophobes, les gros y compris. On a intériorisé, intégré tout un tas d'injonctions sur ce que c'est avoir un corps sain, beau, etc. Il y a tout un tas d'injonctions médicales aussi et de croyances autour de ce que c'est être un corps gros. Est-ce qu'un corps gros est forcément un corps malade ? C'est des choses qu'on peut questionner aussi. Mais au final, on a intégré complètement des normes de corps mince comme étant le corps idéal. Sans forcément parler de beauté, mais juste d'idéal en tant que à souhaiter, en fait. Et du coup, je m'inclus aussi dedans. On doit faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour arrêter d'être grossophobe. C'est vraiment notre mode par défaut. Donc c'est un effort pour arrêter de l'être.
Si on est tous et toutes grossophobes, est-ce que c'est pas justement parce que la société n'est pas prête ? Est-ce que c'est pas un cercle vicieux aussi ?
La société n'est pas prête parce qu'on est dans un ensemble d'injonctions qui vont toutes dans un même sens, à savoir nous faire consommer des régimes, nous faire consommer... des choses standardisées. Donc autant nous faire croire que si on est différent, si on sort un peu du moule, c'est quelque chose de dangereux. de pas montrer la diversité des corps, ça amène aussi cette croyance qu'on est anormal en tant que personne grosse.
Bah, les meufs grosses, on est souvent décrites comme gourmandes et chaudes. En plus, avec un petit bonus autour des pipes, parce que bon, quand même, hein, vu qu'elles ont bien mangé... Vraiment, ah non, mais enfin, ça c'est... tous mes dates, vraiment, les mecs me parlent de ça. Ah oui, pourquoi gourmandes et chaudes? Car ça ne doit pas arriver souvent quand même. Hein, voilà. Et vraiment, je me suis énormément sentie, et je peux aussi dire que je me sens encore, aujourd'hui, pas valable, pas légitime, inintéressante, indigne d'attention et de désir. Je me suis beaucoup sentie dégoûtante et ridicule. Donc au premier clampin qui s'intéressait à moi, comprenait, voulait le ken, je faisais tout et n'importe quoi pour le garder.
Vraiment, je vous recommande pas d'être gros. Les minces sont pas prêts à être gros, c'est hyper chaud en fait. C'est tout un tas de contraintes, de discrimination au quotidien, les insultes dans la rue, etc., des regards, des entraves à l'embauche, etc. Et les gens ne sont pas prêts, la société n'est pas prête parce qu'on n'a pas assez de représentation encore.
Dans la sphère professionnelle, les personnes grosses ont 8 fois moins de chances d'accéder à un emploi. Ces personnes s'exposent à des moqueries, des carrières ralenties, du harcèlement.
Les stigmates principaux qu'on intériorise dans le fait d'être grosse, c'est qu'on manque de volonté, qu'on manque de contrôle. Personnellement, moi j'ai développé tout un tas de pratiques et de comportements pour justement avoir une sensation de récupérer du contrôle. Là où j'ai la sensation, là où j'ai la croyance de ne pas contrôler mon corps, et bah du coup, je vais contrôler comment je me maquille, comment je m'habille. À un moment de ma vie, j'étais toujours hyper sapée, en talons, robe absolument pas confortable, pour jouer ce rôle de la bonne grosse, parce qu'au moins, elle fait attention à elle. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à déconstruire, la conf m'y a aidée aussi, mais ça peut se jouer sur des pratiques comme ça, par rapport à l'habillement, par rapport aux soins corporels, aussi beaucoup sur des pratiques d'alimentation face au groupe. Et on intériorise surtout que voilà, il y a une idée de monstruosité, d'anormalité, de maladie aussi, et qu'on ne mérite pas en fait. Qu'on choisit aussi notre état. Qu'on ne fait pas le choix de mincir et que du coup on est fainéant. Et tout un tas d'autres joyeusetés.
J'ai eu le Covid vraiment ardos en mars 2020. En étant assise, j'étais essoufflée. J'ai perdu énormément de capacité respiratoire, je suis asthmatique depuis. Quand il a été question potentiellement de me transférer à l'hôpital, à ce moment-là, ma médecin elle m'a dit « Non, je ne vous transfère pas, parce que vous allez donner votre poids en fait, et on ne vous acceptera pas. » Pendant le confinement, c'était ça aussi, être gros. C'était pas être accepté à l'hôpital parce qu'il fallait trier.
Est-ce que le corps est politique?
Oui, absolument. Le corps est politique, le corps des femmes encore plus. C'est ce qui nous rend au contact du monde et ce qui nous rend visible au monde. Et du coup, le corps féminin qui est extrêmement empreint de contraintes et d'injonctions dans nos sociétés patriarcales, le fait de s'autoriser de la liberté hors des normes et des injonctions, décidément ce mot revient beaucoup, le fait de sortir de ça, c'est politique. Un corps gros et un corps politique... On nous le fait savoir quand on marche dans la rue, hein, qu'on n'est pas normaux, et vraiment, alors qu'on fait juste un truc normal qui est de marcher dans la rue, et ça peut se questionner, est-ce que c'est toujours politique, rien que le fait de marcher dans la rue en tant que gros? On n'est pas obligé de militer tout le temps, mais en tout cas, rien que le fait d'oser se montrer, et oser juste exister, et faire des trucs d'humains normaux, moi je trouve que c'est politique en un sens.
Dans la population générale, c'est toujours un peu plus compliqué de faire passer des messages quand on est directement concerné, particulièrement quand on est gros. Une fois tous les 15 jours, il y a une nouvelle personne qui débarque et qui me dit « Non, mais parce qu'en fait, Daphné, hein, quand même ce que vous faites, c'est de prôner l'obésité. Non, je me bats juste pour qu'un Français sur 5 ait le droit d'exister sans être jugé ou moqué. » Voilà, 1 sur 5.
Est-ce que derrière tout ça, il y a un petit business du régime, des contraintes un peu d'argent?
Pas un petit, pas tout à fait un petit. Il y a un énorme business. les années 80 en France ont vraiment amené la diète culture et l'hyper-contrôle alimentaire, c'est devenu un art de vivre, vraiment. On nous vend un idéal corporel à atteindre et on nous vend aussi des façons complètement pétées d'y accéder, des régimes qui deviennent du coup des marques et des empires, des livres, des applications qui amènent encore plus d'inconfort et de mal-être. Et il y a un énorme business autour des insatisfactions corporelles de façon générale. Ça rapporte du blé et les insécurités.
Donc l'objectif, c'est de culpabiliser les personnes grosses pour rapporter de l'argent, en fait.
De culpabiliser et de leur faire croire qu'elles sont en mauvaise santé et qu'elles sont malheureuses comme elles sont. Parce qu'on peut quand même pas être bien. Et du coup, tant culpabiliser les personnes grosses, mais aussi leur entourage. Et ça, c'est un gros truc aussi dans la grossophobie. Il y a vraiment l'entourage proche ou moins proche qui... Mais c'est pour ton bien, il faut que tu fasses des efforts quand même. Donc, du coup, on nous pousse à faire des régimes, à faire du sport, à des trucs. Alors que... Enfin, faire du sport, si tu peux pas trouver des fringues de sport dans lesquelles tu rentres. Quand ton cuir rentre pas dans les machines de sport, lol. Voilà. It's unusual.
À partir des années 80, de nouvelles études sur la santé viennent inonder la société et changer la perception des personnes grosses. Pendant sa conférence, Daphné cite notamment des études menées par Coca et Nestlé. Ils expliquent que l'on peut régler l'obésité uniquement par l'activité physique, non pas en mangeant mieux, mais en bougeant plus. Daphné poursuit. D'une responsabilité collective, on passe à une responsabilité individuelle. Je vais te sortir quelques statistiques.
Oui.
Tu pourras me dire ce que t'en penses après. Alors, il y a des études qui ont dit en 2013, 46% des femmes ont déclaré ne pas aimer leur corps. En juin 2023, 60% des femmes n'aiment pas leur corps contre 33% des hommes. Donc il y a une augmentation, il y a aussi une différence avec les hommes. Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu entends ça ?
Le patriarcat et les injonctions faites au corps des femmes et la femme objet de désir, objet de regard. Donc on nous apprend en tant que meuf à nous conformer à un certain idéal corporel où il faut être pas trop grosse, pas trop prendre de place. Être toute petite pour être désirable aux yeux des hommes. Et on nous apprend aussi à nous plier en mille pour correspondre à ça et à... de là à s'affamer, entre autres. Et les hommes sont un peu moins soumis à ces injonctions corporelles, même si ça tend à changer. Je pense qu'il y a vraiment cette différence qui est très très visible là, de façon genrée, parce qu'on nous éduque en tant que petites filles à être des petites filles polies et jolies. C'est quelque chose qui laisse des traces. Il y avait un chiffre différent en fonction du temps, non ? Ouais, il y avait une date.
En 10 ans, ça a augmenté. On est passé de 46% à 60% des femmes.
Il y a un gros truc qui s'est passé pendant les confinements, où il y a eu des vagues et des vagues d'images grossophobes qui ont beaucoup afflué partout. Parce que, oh mon Dieu, je peux pas sortir, on va tous devenir énormes et poilus. Ah bah oui, c'est vrai que c'est le gras et les poils, c'est vraiment monstrueux. Hein, c'est ironique, hein, ce que je dis, évidemment. Mais je pense que ça laisse des traces, le fait que, oh mon Dieu, il y a eu toute une paranoïa autour de la prise de poids pendant les confinements. Et je ne suis pas sûre, il y a très probablement un impact des réseaux sociaux et d'une suraffluence d'images de corps qu'on peut voir sur TikTok, sur Instagram, etc. Et en même temps, eh ben, les réseaux nous permettent aussi d'amener de la diversité et d'avoir aussi, en choisissant... qui on suit et comment on les suit, d'avoir aussi une autre manière d'habituer nos yeux à la diversité corporelle. Donc j'ai pas envie de mettre le projecteur, moi, sur les réseaux.
Il y a eu une augmentation en 10 ans, mais en fait, ça fait des millénaires que le corps des femmes est subi à des injonctions physiques, bon, pas que. Si tu te fais une projection sur l'avenir, est-ce qu'un jour on va en sortir ? Est-ce qu'il y a des améliorations possibles ? T'as de l'espoir pour plus tard ?
J'ai de l'espoir... Oui. J'ai envie de me dire que j'ai de l'espoir et j'ai envie de rester humble dans le sens... je veux garder de l'humilité où j'ai bien conscience que qu'on peut pas faire changer tout le monde et que on peut pas changer des gens qui veulent pas changer. Donc voilà. Mais de faire bouger un peu les lignes, d'amener petit à petit des gens à avoir les yeux qui s'habituent à des... J'insiste sur le fait d'habituer nos yeux parce que je pense que c'est primordial, la représentation. Qu'on ait des représentations de corps différents, de corps gros, de corps petits, de corps abîmés, de corps handicapés, de corps de toutes les couleurs. Ça me semble primordial qu'on puisse habituer nos yeux pour ne plus considérer qu'il n'y a qu'une seule norme corporelle, pour qu'il n'y ait plus de normes corporelles. Et ça tend à bouger, on peut commencer à voir un peu plus de diversité. Moi, je constate en quelques années que j'ai un peu moins de difficultés à m'habiller, par exemple. Là, il y a un peu plus d'inclusivité, alors ça devient aussi tout un business aussi de dire « on est inclusif et on fait une taille en rab », enfin bref. Mais ça bouge quand même.
Nous étions avec Daphné, autrice de la conférence gesticulée « Sous les pétales, entre invisibilisation et stigmatisation des corps gros ». Pour suivre Daphné sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram « Daphné avec deux E, underscore, Nufard, N-U-F-A-R-D ».
Je nous invite à ne pas lutter contre, enfin si, on a plein de trucs contre l'égalité, mais à lutter pour des espaces de visibilité, pour des canaux de prise de pouvoir. Pour habituer nos yeux avec des corps réels, vivants, mouvants, pour entamer, soutenir, poursuivre cet ensemble de pistes et de réflexions, pour entamer, soutenir, poursuivre des petites et grandes questions, petites et grosses révolutions. Je nous souhaite de révolutionner notre rapport à la grosseur, de révolutionner notre regard, nos regards sur les corps gros, nos regards sur tous les corps, de révolutionner notre rapport individuel à notre propre corps. Prenons soin de notre propre corps et on laissera celui des autres tranquille. Persuadée de ça. De révolutionner aussi notre rapport collectif au corps. De faire corps collectivement pour transformer. Faire corps collectivement pour muer, transmuter. Prendre le temps de se poser des questions sur notre intime, l'intime et politique. Vraiment. Qu'y a-t-il sous les pétales ?